un sujet que nous allons aborder également. On va revenir là-dessus avec Philippe Quentin et Mario Tremblay dans un petit peu plus tard dans la chronique avec Mario. On va parler du projet qui a été annoncé hier de faire un film sur la vie, la carrière de Guy Lafleur. Plusieurs autres sujets, mais tournons-nous tout de suite du côté justement de Monsieur Tremblay. Bonsoir Mario, comment ça va?
Bonsoir Mario, ça va très bien et toi?
Oui, ça va bien. Un beau vendredi. C'est un petit peu plus frisquet pour ton golf. Ça pince-tu un peu les mains quand tu t'élances pour tes coups à 250 verges, mon Mario, là, ou
ben,
plus encore?
Hier, on a joué à Joliette hier. On était deux fonds somme avec Lucien Deblois. C'est Lucien qui nous a invités au club Joliette.
Ah oui? Et
soit dit en passant, c'était un beau terrain. J'ai adoré. Ça devait faire à peu près une vingtaine d'années que je n'avais pas joué au club de golf Joliette. Puis je remercie les professionnels également de leur réception qu'ils ont fait. Alors, on a passé vraiment une belle journée. On n'a pas joué trop de bonheur. On a joué autour de midi, donc on était quand même assez bien. Habituellement, j'étais un gars qui joue tôt le matin vers 8 heures, mais de ce temps-ci, à 8 heures le matin, là, des fois, c'est pas chaud pour la pompe à eau, mon petit Mario.
J'ai jamais joué le terrain de Joliette, mais je l'ai survolé d'une certaine façon parce que j'étais allé faire un tournage pour l'émission que j'animais à Radio-Canada, là, dans le temps, avec ton ancien ailier et partenaire de trio, Yvon Lambert, notamment. Puis là, je cherche dans ma mémoire quels autres anciens étaient là. Puis on s'était installé sur un par 3 et le reportage qu'on tournait, là, pour avoir du plaisir, c'était d'essayer, les gars essayaient un trou d'un coup sur le plus beau par 3. Tu sais, le par 3 qui est en bas, là, que tu frappes d'en haut, là, le par 3, que le verre est peut-être, quoi, un 20 mètres plus bas, là, tu sais, il est vraiment en pente, c'est ça. Mm-hmm. Mais personne ne l'avait mis dedans. Je pense que je leur avais donné chacun 20 balles de golf pour que les gars s'essaient, puis on tournait ça, puis on avait eu bien du plaisir. As-tu beaucoup de trous d'un coup à ton actif, toi, Mario?
J'en ai pas. J'ai passé très souvent. Bon, quelques occasions. Mais j'en ai pas. Ma défunte femme Colette en avait 5.
Wow!
5 trous d'un coup, Colette. Ben oui.
C'est bien pour dire. C'est quoi? C'est parce que, ça vient-tu avec les péchés, ça, Mario, ou quoi? Non?
Je sais pas. Mais...
les vieux péchés qui nous rentrent.
Peut-être que je le garde pour plus tard un petit peu, peut-être.
peut-être. Mario, victoire donc du Lightning de Tampa Bay. Mais je vais te dire une affaire. Je commençais à avoir peur que les Islanders leur jouent le même tour que lors du match précédent. Puis je suis content de voir Tampa Bay avancer.
Ben moi aussi, puis le Lightning peut dire merci à Vasilievski, parce qu'en prolongation, souviens-toi, lorsque le Lightning était à l'avantage numérique, le défenseur, sinon c'est Johnson, il a fait une erreur, et une échappée, et Vasilievski a fait l'arrêt. Ils ont réussi à gagner plus tard, mais quand même, faut donner crédit aux Islanders, je pense, Mario, dans tout ça. Regarde, c'est pas une grande équipe, mais c'est une bonne équipe qui joue en équipe avec un bon entraîneur.
Ah oui!
Alors, évidemment, s'il y avait un peu plus de punch en attaque, il serait encore plus dangereux. Mais, tu sais, je regarde, je pense à ça aujourd'hui. Tu sais, on regarde John Tavares là, qui a quitté les Islanders.
Exact.
Les Islanders ont perdu pour rien. Tu sais, fait juste mettre la joue là, de Tavares avec cette formation-là. Ça donnerait évidemment plus de punch en attaque. Puis j'aurais donc souhaité, jusqu'à un certain point, comme le disait Normand Flynn après-midi au 5 à 7, que les Islanders gagnent la Coupe Stanley et que Tavares puisse regarder ça chez lui dans son salon en disant « Qu'est-ce que j'ai fait là de m'en aller à Toronto? » Fait que c'est un peu regrettable quand même. Mais tu vois, regarde, quand même, comme j'ai dit tantôt, faut donner crédit aux Islanders de New York et à Barry Trotz. Les gars ont lutté d'arrache-pied et c'est venu bien près qu'on se dirige vers un match numéro 7. Et dans un match numéro 7, Mario, on sait jamais ce qui peut se passer.
Tout était possible, mais pour revenir à Tavares, dans le cas de Tavares, c'est sûr qu'il y a eu le temps d'en baver un petit peu, même si les Islanders se sont pas rendus en finale, parce que veux pas, les Islanders étaient à deux victoires de la finale, alors que les Leafs de Toronto ont les pieds sur le pouf, ça fait un petit bout déjà, là, hein, m'a dit une affaire.
Exactement. Puis moi, je pense que les Islanders sont pas loin là de pouvoir peut-être se rendre en finale d'une Coupe Stanley. Il manque pas grand chose, comme j'ai dit, peut-être un peu d'ajout en attaque, mais c'est une équipe qui vraiment là m'ont drôlement impressionné. Il y en a qui trouvent leur jeu plate, mais écoute bien là, tu joues avec l'équipe que t'as. C'est une équipe. Quand Barry Trotz est allé avec Washington, c'est une équipe qui était pas disciplinée. Ben lui, il a mis la discipline, puis ils ont joué en équipe, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Ils l'ont pas signé, ils ont engagé Todd Reardon, l'assistant coach, puis garde, il se fait congédier, puis Barry s'est rendu pratiquement en finale de Coupe Stanley.
Veux pas, tu vois qu'il y a un effet sur ses équipes. Quand c'est lui qui a permis aux Caps de Washington de gagner la seule Coupe Stanley de toute leur histoire jusqu'à maintenant avec Ovechkin, dont on disait qu'il gagnerait jamais. Alors c'est sûr que Trotz a un effet sur ses équipes là, puis il doit bien s'entendre avec Lou Lamoriello que t'as connu comme Jacques Lemaire d'ailleurs, parce que c'est un gars qui a prôné une philosophie semblable pendant toute sa carrière comme DG.
Oui, puis effectivement, puis regarde, tu sais, là-dedans, là, nous, les Canadiens aussi, là, c'était la même affaire, là. On jouait dans les deux sens de la patinoire, puis on a gagné la Coupe Stanley comme ça. Il y avait personne qui trichait sa patinoire, puis quand il y en a un qui trichait, il se faisait ramener à l'ordre par ses coéquipiers. Alors, c'est ça, là, le hockey, c'est dans les deux sens de la patinoire.
Exact. Puis
regarde, puis le meilleur exemple que je vais te donner, c'est Tampa Bay. Il regarde Tampa l'année passée, ça fait sortir en quatre par Columbus. Regarde la façon dont ils jouent cette année. Ils ne donnent pas beaucoup de chances de marquer. Ils ont beaucoup de punch en attaque, mais finalement, ils ont compris le message de John Cooper. Évidemment, il a fallu que Julien Brisebois apporte certains ajouts qui manquaient à cette formation-là. Je pense à Gaudreau, je pense à Maroon, Cirelli, qui a vraiment de bonnes séries éliminatoires. Ça va être tout un joueur d'avenir. Alors, on regarde la profondeur du Lightning, mais encore une fois, c'est de la façon dont ils jouent. Et je pense que Tampa Bay, depuis le début des séries éliminatoires, ils ont battu Columbus, ils ont battu Boston, ils ont battu les Islanders. C'est une équipe qui peut jouer n'importe lequel style de jeu.
Victor Hedman, là, c'est un méchant joueur de hockey, Mario, hein. Et je sais pas s'il te rappelle des gars que tu as vus, je sais pas. Ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est drette là, ouais. Je m'en allais.
Il me rappelle Larry Robinson un petit peu, tu sais.
Sergachev aussi, je trouve.
Oui, Sergachev, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il connaît des bonnes séries aussi. Imagine-toi ce petit gars-là, dans 2-3 ans, comment il va être bon, là.
Fait
que quand les vétérans vont partir, ben, c'est lui qui va prendre la relève. Mais pour en revenir à Hedman, tu sais, comme Larry, c'est un bon défenseur offensif. Peut-être qu'Hedman est de l'été un peu meilleur, je te dirais, entre guillemets, là.
Oui, oui.
Mais Larry a connu des bonnes saisons en attaque aussi, là. Souviens-toi, là, dans les séries éliminatoires, le grand Larry, il donnait pas sa place. Mais c'est le fun de le voir aller. Tu vois, c'est un gros bonhomme, il est confiant. Écoute, il est rendu à quoi? 10 buts, je pense. Il a fait comme ça, 9-10 buts dans les séries éliminatoires.
Alors, c'était son 9e, je pense. Bon, je vais regarder sa 9e. Fiche, mais il y a, ben, me semble que c'était son...
Mais écoute, tu regardes ça, là, c'est Hedman, Shattenkirk, Sergachev, Cernak, McDonough, Bogosian, comme 5e, 6e défenseur. Puis on parlait
9
de
buts,
tantôt,
je pense, Hedman l'insère actuellement.
Bon, exact. On regardait le travail de Vasilievski depuis le début des séries. Quand c'était Carey Price, on disait Carey à 9,25, 9,30, il gaulait en tabarouette. Ben, Vasilievski, c'est exactement ce qu'il y a. Il y a un taux de pourcentage de 931. Je garde du côté de Hudobin, il y a un pourcentage d'arrêt de 920. Alors, c'est sûr que présentement, Vasilievski est dans une forme extraordinaire. Il est au sommet de sa forme. Puis, c'est la raison pour laquelle je choisis Tampa en 6 face aux Stars de Dallas.
Penses-tu qu'on va avoir une série quand même? Est-ce que ça va être une domination? Oui, Dallas va réussir à faire ce que les Islanders faisaient, mais peut-être avec un petit peu plus de punch en attaque. Quand Dallas met un tournant en zone adverse, ils sont capables de créer de l'offensive.
Exact. La seule affaire qu'il va falloir faire attention du côté de Tampa Bay, c'est de pas louer le premier but. Ils l'ont loué contre les Islanders, quoi, 3 reprises, je pense. Alors, faut faire attention parce que Dallas, ils ont plus de punch en attaque que peut en avoir les Islanders de New York. Mais ce sera pas une sinécure, là, pour le Tampa, là. On l'a vu, là. Tantôt, je parlais que Tampa a battu Columbus, Boston et les Islanders. Mais de l'autre côté, là, eux, ils ont battu Calgary, ils ont battu Colorado, ont gagné contre Vegas. Alors, ils méritent d'être en finale de la Coupe cette année. Puis moi, je pense que Tampa va gagner, mais ils vont en avoir plein les bras, plein les bobettes, comme disait ma mère.
Et je suis content, une équipe dirigée par un gars de chez nous, Julien Brisebois, avec comme bras droit un autre gars de chez nous, Mathieu Darche, avec sa glace, ouais. Des gars de chez nous, une organisation qui a toujours quand même considéré le talent québécois. Puis, je dois dire que les Islanders aussi avaient des joueurs de chez nous, sa glace. Ouais. C'était le fun à regarder comme série, soit dit en passant. Là.
Exact.
Mais veux, veux pas, ça fait en sorte que tu as envie de prendre pour des équipes dans lesquelles tu te reconnais un peu avec des gars de la place. Là.
Ouais. Évidemment, puis dans le cas de Julien, tu sais, moi, là, j'aimerais lever mon chapeau à Julien Brisebois ce soir parce que, souviens-toi l'an passé quand le Lightning, comme j'ai dit tantôt, a été éliminé en 4 par Columbus. Oui. Tu sais, il y avait des GM, il aurait piqué des crises, puis il aurait fait des transactions plus importantes que le Lightning a fait. Par contre, Julien Brisebois a gardé son calme. Il a gardé ses joueurs, les meilleurs joueurs. Il a su bien les entourer. C'est ça que le travail de Julien Brisebois comme directeur gérant, c'est ce qui a permis au Lightning de se rendre en finale cette année. Gaudreau, Coleman, Maroon, Paquette était là.
Oui.
Tu sais, c'est tous des gars quand même qui sont venus se souder à cette formation-là, puis ça a fait vraiment une grosse différence.
Ah, c'est une équipe complète. Ils peuvent gagner de toutes les façons possibles. Et ils pourraient être bons très longtemps. C'est une équipe qui pourrait rester dans le carré des meilleures équipes, dans le carré d'as pendant plusieurs années. Là,
en plus, là, les équipes qui sont toutes là présentement, là, semi-finale, finale, c'est parmi les plus grosses équipes de la Ligue nationale. Tu vois comment c'est, là? J'ai pas les poids exacts, là. On va en parler ce soir à l'antichambre, mais c'est
les équipes plus lourdes.
Exact, plus lourdes. Alors, comme ma manchette de ce soir, ça va être mieux vaut un beau gros cheval qu'un bon petit cheval.
Mais c'est drôle parce que t'as joué ça dans ton titre, parce que je sais pas si tu l'as entendu tantôt quand tu parlais de Sergachev, j'ai dit un cheval parce que...
Ouais, c'est ça, un cheval. C'est un gros cheval, exactement.
C'est sûr que t'as un petit pincement au cœur quand tu le vois, quand tu le vois jouer, là. C'est. Est-ce qu'on dira de cette transaction-là, puis j'espère que Jonathan va donner du gros hockey aux Canadiens dans les prochaines saisons, mais, disons que...
Ben, disons que ça regarde pas bien pour l'instant. T'as raison. J'espère que dans le cas de Jonathan, il va, il va sortir de la gate, là. Excuse-moi l'expression anglophone. Mais,
les blocs de départ.
Plus. Les blocs de départ. Va falloir que là, il se prenne en main. Écoute, ça va faire, quoi, il va avoir 20, 25, 26 ans. Puis je pense qu'à ce stade-là de ta carrière, tu te dois de commander du leadership, puis d'être capable de te prendre en main, puis devenir un joueur d'élite dans la Ligue nationale. S'il ne réussit pas à faire ça l'année prochaine, je pense que les carottes vont peut-être être cuites pour Jonathan Drouin.
Le plus de points enregistrés par Larry Robinson en une année éliminatoire, c'est 21 en 1977-78. Il avait marqué 4 buts, 17 mentions d'aide. L'année où il a marqué le plus de buts en série, ça a été en 78-79. Il en avait marqué 6 et 9 passes pour 15 points. Et en saison régulière, sa plus grosse saison à Larry, ça a été 85 points en 76-77, 19 buts, 66 passes. Et bien des années plus tard, 85-86, 82 points. 82 points, 19 buts, 63 passes, quasiment 10 ans plus tard, Mario.
T'as dit, le grand, là, c'était un joueur de hockey. Puis ce qui était le fun avec Larry, c'était un gars qui ne se prenait tellement pas au sérieux. C'était monsieur Roger Bontemps. Toujours le sourire accroché aux lèvres. Voulait toujours aider ses coéquipiers. Puis quand il embarquait sa patinoire, inquiète-toi pas, il n'y avait personne qui le poussait dans le dos. Il savait ce qu'il avait à faire. Puis c'est pour ça que Larry a été élu au Temple de la Renommée et qu'il a été un grand joueur de hockey également.
Ouais, un grand joueur, puis un monsieur, moi je l'ai rencontré, jeune homme à Magog dans le temps que faisait la tournée de balle, là, puis il était gentil avec tout le monde. Puis parlant de cette époque-là, je trouve que ça met la table, même si c'était pas, c'est arrivé sans que je pense qu'on allait parler de Larry. T'as entendu parler de la nouvelle hier, à l'effet qu'il y aurait un film sur la vie et la carrière de Guy Lafleur. Remarque, c'est pas la première fois qu'on entend parler, j'espère que ce projet-là va voir le jour. Comment tu réagis, toi, quand t'apprends ça, que ben ton ancien coéquipier... Ben, avant de t'entendre réagir, je vais te poser une autre question. Quelle scène que toi, dont t'as été témoin comme coéquipier, que il y a juste toi et tes coéquipiers que vous pouvez avoir vu, que moi, je peux pas avoir vu, personne peut avoir vu, on peut avoir lu des histoires là-dessus, mais que t'aimerais ça, toi, qu'on voit dans le film pour comprendre c'était qui Guy Lafleur comme coéquipier au joueur de hockey?
Ben, moi, j'aimerais ça qu'on puisse voir Guy Lafleur, là, que quand Guy Lafleur a été le meilleur joueur de la Ligue nationale, là. Puis tu sais, puis il a marqué des buts à profusion, mais j'aimerais ça qu'on puisse voir son personnage, comment Guy, tantôt je parlais de Larry, comment Guy était un gars simple à vivre également. Tu sais, c'était un gars qui était, lui ici, était un pain sans rire, avait toujours du plaisir, malgré son statut de joueur vedette. Tu sais, c'est ça que j'aimerais dans le film, qu'on puisse être capable de faire vivre au monde, là, dans ces belles grosses années. Peut-être aussi un fait que, quand on avait affronté les Bruins de Boston, puis Wensink avait dit, on va y arracher la tête, puis là, Guy avait eu des menaces de mort dans cette série-là, et nous, on l'a su après les séries éliminatoires, quand on a gagné la Coupe Stanley, mais Guy restait à l'hôtel, et il restait pas chez eux, là, puis il y avait deux gardiens qui étaient à la porte à l'hôtel, puis ça, c'est une partie que, comme j'ai mentionné, qu'on a su après les séries éliminatoires, mais effectivement, Guy Lafleur a reçu des menaces de mort aussi, là.
Mais donc ça, les menaces, vous l'avez appris après, mais pendant que ça se passait, sentiez-vous qu'il se passait quelque chose de différent autour de Guy au point de vous poser des questions, non?
Non, pas en tout, du tout. Il n'a jamais parlé, il a continué à faire ses affaires. Puis on n'a jamais vu ou aperçu Guy Lafleur a été branlé là, par cette chose-là.
Guy, t'es-tu ciblé souvent par, les méchants garnements des adversaires? Y en a-tu mangé des coups,
Mario? Il y en a mangé, mais on avait un club pour le protéger aussi, là. Tu sais, on regardait ça, là, ces gars-là, Lemaire, Schott, Lafleur, jouaient souvent contre les meilleurs trios de l'autre côté. Tu sais, ils jouaient pas contre les quatrièmes lignes pis troisièmes lignes se faire arracher la tête, parce que s'il y en a qui auraient voulu leur arracher la tête, ben, fort possiblement qu'il y aurait eu des chances qu'ils se fassent arracher eux autres aussi. Fait qu'il était mieux de les laisser tranquilles, puis c'est de cette façon-là, je pense que, il y avait du respect, là, pour ce trio-là. C'est comme les meilleurs trios des autres équipes, c'est la même affaire. Tu sais, c'est sûr, peut-être certains soirs, c'était arrivé que quelques imbéciles, là, qui ont qui ont perdu la tête, des choses de même, c'est sûrement arrivé. Mais je pense que l'ensemble de l'œuvre de ce trio-là a été le fait qu'ils ont joué parmi les meilleurs contre les meilleurs trios. Fait que ça aide un peu.
Le lien entre tout ce monde-là, c'est fort, hein? Les gars avec qui t'as gagné, Mario, là, sans que vous alliez souper à toutes les semaines ensemble, là, je veux dire, vous êtes pas obligé de vous revoir à toutes les semaines, là, j'imagine que quand vous vous retrouvez, là, peu importe s'il y a une petite chamane. Comme toi, Pete Mavlitch, là, vous avez une chicane, là. Quand vous vous revoyez, êtes-vous débodé ou c'est resté?
Oui, on est débodé à la vie à la mort. Ça arrive, ces choses-là. Ben, j'ai rencontré Pete souvent après, puis on faisait des jokes avec ça, puis quand Pete était dépisteur pour Détroit, quand je l'ai rencontré souvent, là. Ben, effectivement, c'est un bon point que tu mentionnes. Tu sais, tu gagnes ensemble, tu souffres ensemble, c'est une grande famille. Puis comme tu dis, là, je me souviens même une anecdote, peut-être 3 ans passés, Mike McPhee était dans le salon des anciens. Et nous, dans ce temps, on l'appelait Patate. Patate, parce qu'il vient d'aller du Prince-Édouard, où il est dans ce coin-là. Puis il dit, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé Patate. Fait que, tu comprends? Fait que c'est un peu ça, là, la camaraderie qui existe, puis l'amitié, ça, c'est quand ça se perdra jamais, là.
Rick Bonus, c'était Buck Buck, puis lui, c'était Patate. Puis
Buck puis Patate.
Buck Buck. Puis toi, les gars, t'appelais comment, Mario? Nous autres, en dehors, t'appelais de Bleuet, mais les gars, devaient pas t'appeler
de Bleuet. M'appelait de Bleuet, m'appelait de Kid.
Les Anglais t'appelaient comme Blueberry, non?
Oui.
Ils faisaient jouer Blueberry Hill de temps en temps dans la chambre, non?
je suis pas arrivé souvent.
Non, c'est pas toi qui contrôlais le jukebox dans la chambre?
Non, c'est pas moi, dans ce temps-là, non.
La musique
en ligne pour aller... J'attendais en ligne pour aller me faire la barbe dans ce temps-là. On n'avait pas les premiers.
La musique ne devait pas être trop forte dans la chambre, me semble, dans ce temps-là.
Il n'avait pas. À mes débuts, il n'avait pas. T'aurais-tu vu ça mettre de la musique Henri Richard entendre ça dans le vestiaire, toi?
Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, hein?
Il aurait dit quoi, tabarnak, ça? C'est de la musique, Harry.
Hey, Mario, c'est trop bon de retourner dans ce temps-là. Tu me permets, on fait une courte pause. Puis au retour, je veux te parler d'un autre aspect quand même, puis qui peut ou qui risque d'être abordé dans le film sur la vie de Guy Lafleur. Puis je me demande si ça a été un des plus grands foies qu'il y a eu dans la grande famille du Canadien. Je pense que tu devines à quoi je fais allusion. Ouais. On revient tout de suite après la pause. I found my thrill. En compagnie de Mario Tremblay, on est dans les souvenirs, puis l'idée d'un film, le projet de film sur Guy Lafleur, veut pas, ça va nous ramener dans le passé, puis un des grands moments de l'histoire, pas sportif, mais un des grands moments, disons, tragiques ou qui a secoué le Québec, c'est la retraite surprise de Guy en 1984, ensuite, 4 ans plus tard, son retour au jeu. Mais toi, tu étais dans cette équipe-là quand Guy a décidé, Jacques coachait, et est-ce que ça... Tu sais, c'est comme d'une famille. J'ai toujours vu le Canadien comme une famille, même si j'en fais pas partie. J'ai le privilège de l'observer de près. Puis, dans toutes les bonnes familles, on peut continuer de se revoir aux fêtes. Puis, il y a des histoires qu'on laisse sous le tapis. Le fait que probablement qu'un film va aller revisiter cet épisode-là, ça me met-tu un malaise, je pense, dans la famille du Canadien?
C'est sûr que ça va brasser de la merde, là. Et quand tu fais un film, là, tu peux pas y mettre les beaux côtés, là, j'imagine, là. Fait que, c'est sûr, Guy et Jacques Lemaire ne se parlent plus, ça fait plusieurs années. Je pense pas non plus qu'ils parlent à Serge beaucoup. Mais c'est sûr que ça va créer ça va faire des remous, mon Mario.
Oui, t'as pas... hâte de voir quelle version qui va aller dans le film. Ben, t'es-tu content de voir ces films-là?
Je sais pas. Moi, je suis pas mal au courant de tout. Là. C'est sûr que si tu veux aller assez loin, c'est sûr que ça va brosser un peu, là, j'imagine. Là. Mais là-dedans, ce que je dis, c'est que ce qui m'a fait un peu de peine, c'est que quand il a pris sa retraite, je trouve comment je dirais bien ça? Donc, on s'en est pas servi à bon escient. Tu sais, on l'a placé dans un bureau, puis qui était retraité maintenant, là, Guy s'ennuyait, évidemment. Alors, je pense qu'on aurait pu peut-être arranger ça différemment pour qu'il puisse être plus heureux dans sa retraite, mais c'est pas arrivé le cas. On fait toujours des erreurs, des fois, comme organisation ou des choses semblables.
Serge disait, il y a une couple d'années, en entrevue, que l'erreur qu'il avait commise dans le temps, c'est de pas intégrer Guy dans son staff hockey plutôt que s'en aller dans le staff marketing, disons, au VP.
C'est ça. Voilà mon point. Puis regarde, Serge a entièrement raison. Puis je pense que Guy, avant tout, c'est un gars de hockey, c'est pas un gars de marketing. Puis je pense qu'il saurait... ça aurait été pas mal plus agréable pour lui de travailler avec tes gars de hockey que de travailler dans le marketing. Tu sais, dans le fond, regarde.
Mais tu penses qu'il aurait pu travailler avec Jacques dans le temps comme gars de hockey s'il était resté comme retraité?
Non, je parle avec Serge. Je parle avec Serge, j'ai arrêté quand même pas mal plus. Là, Serge aurait pu le prendre sous son aile, puis lui montrer, le dépistage, aller travailler dans les mineurs. Je pense qu'il aurait pu être capable de s'occuper de son temps, puis être beaucoup plus agréable dans son travail.
Ben oui. Vous avez jamais eu une espèce de... Il y a eu le centenaire, mais est-ce que tout le monde a déjà été tout là en même temps? La dynastie des années 70, Mario, avait déjà eu un gros party pour commémorer ça?
Non.
Tout le monde,
genre, non, à un moment donné, il parlait d'en faire un. À un moment donné, là, au centre Molson, je pense l'année passée ou il y a 2 ans. Puis finalement, ça a tombé à l'eau. Je sais pas s'ils vont le refaire, j'ai aucune idée. Mm-hmm. Mais puis nous, quand on a fait le centenaire, Jacques puis moi, on était à Minnesota. Malheureusement, on n'avait pas pu venir à Montréal pour la photo d'équipe. Ça me brise le cœur à chaque fois que je vois sa photo-là. Tout le monde est là, il manque Jacques puis moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Le travail oblige, puis on ne pouvait pas descendre. Fait que c'était ça qui est arrivé.
Hey, je savais pas ça. Je pense que tu m'avais jamais confié ça. C'est vrai que ça doit faire quelque chose, hein, quand t'as fait partie
de
l'histoire.
Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Tu vois, tous les gars sont là. Tous les gars qu'on a gagné la Coupe Stanley, puis ceux avant nous aussi, là. Alors, c'est sûr, quand tu regardes la photo, on n'est pas là, ben ça me fait un petit pincement au cœur, honnêtement, là.
C'est sûr, c'est sûr. Mario, t'avais une bonne moyenne pour un gars de troisième trio en éliminatoire. 49 points en 101 matchs, monsieur ouais. le. Wow, ben, c'était toute une production.
Tu sais, on regarde Tampa Bay, là, il a dit John Cooper l'autre soir, là, ça prend la production de tout le monde. Ben, on faisait notre part pour on l'aidait le club à gagner des coupes.
C'est ça. T'avais-tu du papier sablé sur ton chandail, mon Mario?
J'en avais en masse, inquiète-toi pas. La peinture arrachait, je peux te le dire.
Je peux être sûr de ça, on s'en souvient très bien. Mario, bonne fin de semaine, mon ami.
Allez, mon chum, au week-end, bye.
Bye-bye, toi aussi, c'était Mario Tremblay. Dans un instant, le biographe de Serge Chavard, Philippe Quentin, a sûrement quelque chose à dire sur le projet de film sur Guy Lafleur.